Radio.
Salut à tous sur Game Radio, c'est Kalia pour Pachinko, votre émission jeux vidéo vue du Japon. Après la BAD de la semaine dernière, on revient aujourd'hui sur un sujet particulièrement pointu. Technophobe, passez votre chemin, puisqu'on va de nouveau parler de puces, de signaux vidéo, de conversion voltage et d'autres bricolages du même acabit. Le Pachinko d'aujourd'hui fait la paire avec celui d'il y a deux semaines, où je vous dévoilais comment lire des jeux du monde entier sur votre console adorée. Cette fois-ci, j'explique aux plus baladeurs d'entre vous comment emmener leurs chouchoutes partout avec eux sans qu'elles ne souffrent du dépaysement. Un sujet qui ne concerne pas tout le monde donc, mais les problèmes rencontrés sont tellement spécifiques qu'il est impossible de trouver un guide complet sur le net. Je compte bien réparer cet oubli, d'autant que ça me rassure de penser que je ne suis pas la seule à mettre en priorité mes consoles dans ma valise quand je pars au bout du monde. Alors comme pour toutes les petites bêtes, vous devriez d'abord vous préoccuper de lui trouver une alimentation adaptée une fois sur place. En l'occurrence, je ne vous parle bien sûr pas de croquettes poils brillants, mais d'un voltage qui convient à l'adaptateur secteur de votre console. En effet, il n'existe pas de normes internationales pour la tension électrique. Son intensité varie selon les pays. Vous savez sans doute que nos prises fournissent du courant à 220-230 volts, mais les États-Unis distribuent du 120 volts, le Vietnam du 127 volts, et le Japon du 110 volts. Vous allez me dire, et alors ? Eh bien, figurez-vous que certaines consoles sont particulièrement fines bouches, et qu'un courant inadapté à leur métabolisme fragile risque de les endommager. Mieux vaut prévenir que guérir, alors renseignez-vous sur la tension électrique dans votre pays de destination et vérifiez qu'elle est supportée par l'adaptateur de votre machine. Ce conseil vaut d'ailleurs pour tous les appareils électriques que vous emmenez. Mais bon, si c'est votre rasoir qui grille, au pire vous en rachetez un, alors que si c'est votre console chérie en édition limitée, vous risquez de l'avoir un peu mauvaise. Pour éviter les surprises, lisez les indications sur l'adaptateur, le gros boîtier en plastique qui relie la console à la prise. Celui de la PlayStation 2 indique par exemple 100 V à 240 V. Vous pouvez donc l'emmener partout sans souci. Par contre, les consoles Nintendo achetées en Europe comme la Wii ou la DS supportent uniquement le courant local à 230 volts, ce qui est quand même un peu pénible pour des machines de manufacture japonaise. Alors, comment pallier aux problèmes de consoles difficiles ? Une seule solution, le transformateur. Il s'agit d'un gros boîtier très lourd et souvent bien encombrant que vous branchez entre l'adaptateur de la console et la prise. Comme son nom l'indique, il transforme la tension du courant qui y passe pour l'adapter à vos appareils étrangers. Notez qu'en France, vous trouverez bien plus facilement des adaptateurs 220 vers 110 que l'inverse. Ils sont prévus pour les appareils étrangers ramenés sur le territoire. Il existe aussi quelques transformateurs réversibles, plus rares et plus chers. Si vous souhaitez emmener vos propres appareils à l'étranger, je vous conseille donc de vous renseigner pour acheter le transformateur adapté sur place. Cela vous reviendra toujours assez cher cependant, comptez au moins 40 € pour un truc correct. Les transformateurs ont quand même le petit avantage de faire aussi convertisseur de fiches, puisque comme vous le savez, il existe différentes formes de prises dans le monde. Dernier petit conseil en ce qui concerne l'adaptateur, histoire que mes échecs vous servent. Faites bien attention au voltage maximum fourni par le transformateur à la sortie. J'en avais acheté un premier pour 20 €, sans me rendre compte qu'il ne fonctionnait qu'avec des appareils nécessitant 80 volts maximum, les petits radars de voyage par exemple. Du coup, quand j'ai testé avec mon ordi portable, ça a fait clac et hop, 20 € envolés. Tant qu'à acheter un transformateur de 120 volts, choisissez-en un qui peut vraiment délivrer des 120 volts à la sortie. Ça vous paraît déjà galère ? Réjouissez-vous, ça n'est rien à côté de ce qui vous attend à l'arrivée, la connexion au téléviseur. Parce que le zonage et les voltages différents ne suffisaient pas, il fallait aussi mettre au point plusieurs formats de vidéos incompatibles entre eux. Souvenez-vous, dans le Pachinko consacré au zonage, je vous parlais des formats PAL, NTSC et SECAM. Eh bien, j'ai découvert à mon arrivée au Japon que ce n'était pas seulement une affaire de compatibilité jeu-console, mais aussi jeu-téléviseur. En effet, les jeux PAL envoient un signal vidéo différent d'un signal NTSC, ce qui fait que votre jeu européen s'affichera en noir et blanc sur une télévision japonaise ou américaine. Il existe apparemment une télé spécifique qui supporte les deux formats, mais elles sont très chères. Par contre, certaines modifications console sont parfois possibles pour forcer un jeu à démarrer dans un autre format. Elles varient grandement selon les machines, mais voici quelques lignes directives. Si votre console est équipée d'une puce récente ou si son software est modifié, il y a des chances que le hack incorpore une option à cet effet. Cherchez une option labellée « Format vidéo » que vous pourriez régler sur « Forcer NTSC ». Si vous utilisez une puce moins puissante ou un bricolage du type swap et que vous avez beaucoup de patience, vous pouvez opter pour la solution artisanale qui consiste à ripper vos jeux sur l'ordinateur, leur appliquer un patch, il existe un grand nombre de patchs ISO qui permettent de passer un jeu du PAL au NTSC et vice-versa, pour finalement les regraver. Dans ce cas, souvenez-vous que votre console doit lire les disques backup. Si votre console n'est pas modifiée, il va falloir taper dans le portefeuille. Vous avez d'abord la solution de luxe qui consiste à employer un câble Component YQV. La connexion YQV est d'habitude employée pour ceux qui souhaitent obtenir la meilleure qualité possible, mais il se trouve que ce format se retrouve dans le monde entier et représente donc une solution bien agréable au problème de format vidéo. Le câble lui-même ne coûte qu'une poignée d'euros, mais c'est sur le téléviseur que le bât blesse. Seuls certains modèles spécifiques, et donc chers, supportent ce système. Vous avez ensuite la solution du pauvre qui utilise le câble RGB standard, vous savez, les embouts jaunes, rouges et blancs que vous branchez sur la télé. Il s'agit du convertisseur NTSC PAL, un petit boîtier qui fait l'intermédiaire entre votre console et votre téléviseur. Vous branchez le RGB de la console du côté input et le RGB du convertisseur dans la télé pour faire réapparaître la couleur. Selon les modèles et leur qualité, ils peuvent coûter entre 20 et 200 euros. Si, comme moi, vous souhaitez simplement faire tourner une console PAL sur une télé NTSC, le modèle cheap suffit, mais la qualité d'image en souffrira assez méchamment. À ce moment de l'émission, certains se disent peut-être que noir et blanc c'est pas si grave que ça, ça reste jouable, pas la peine de s'embêter avec tous ces détails techniques. Sauf que ce n'est pas fini, je dois encore vous parler d'une dernière incompatibilité. La fréquence d'affichage. Les perfectionnistes auront sans doute déjà entendu parler de la différence entre l'affichage 50Hz et 60Hz, mais pour résumer, un jeu en 60Hz tournera de façon plus fluide et légèrement plus rapide qu'un jeu en 50Hz. L'Europe est longtemps restée coincée en mode 50Hz, mais aujourd'hui, la plupart des téléviseurs supportent les deux. Pour accommoder les vieux modèles, les jeux européens continuent quand même à sortir en 50Hz. Certains incorporent un switch, c'est le petit menu pénible au démarrage qui vous demande de choisir entre 50 et 60Hz. À part pour les passionnés qui veulent la meilleure qualité possible, ces deux modes n'ont donc pas une grande influence sur notre vie de joueur, sauf quand vous partez à l'étranger. En effet, dans des pays qui ont adopté le 60Hz il y a longtemps, comme par exemple les États-Unis ou le Japon, les téléviseurs ne supportent plus le 50Hz. Dans la pratique, ça se traduit par une image qui défile de haut en bas sur l'écran, rendant le jeu absolument injouable. Et selon vos consoles, ce problème peut se régler en deux clics ou devenir cauchemardesque. Les consoles next-gen peuvent se charger de la conversion toute seule, parfois automatiquement comme pour la PS3 et parfois avec un petit réglage comme pour la Wii. Mais pour des machines plus vieilles, pas de vraie solution, à part la méthode bourrine évoquée un peu avant. Ripper, convertir, puis regraver vos jeux. En plus des patchs de format vidéo, il existe des patchs de fréquence d'affichage, mais attention, ça ne marche pas sur tous les jeux et ça risque de bousiller les séquences cinématiques en full motion. Vous l'aurez compris, tout ça est inutilement compliqué, et chaque problème se règle au cas par cas. Comme je ne peux pas aborder toutes les consoles et tous les jeux, j'ai essayé de vous fournir quelques guides afin que vous sachiez où chercher si d'aventure vous rencontrez ces problèmes. Avec beaucoup de patience et de persévérance, vous arriverez à tout faire fonctionner plus ou moins bien. Il m'a quand même fallu 3 semaines d'essai pour faire passer les plus récalcitrants. Notez soigneusement ce qui fonctionne pour chaque jeu et préparez-vous à beaucoup bouger les câbles. Je sens que j'ai perdu la plupart d'entre vous en route avec cette émission technique, mais ne vous inquiétez pas. Dès la semaine prochaine, on revient sur des sujets culturels. D'ici là, bonne semaine et bon jeu à tous!